l'écoute de RFI. Il est 4h en temps universel, 7h à Amman. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Arthur, bonjour à tous. À la une, la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. C'est aujourd'hui, vendredi 29 novembre. Comment s'illustre-t-elle? Reportage dans un instant en Jordanie. La présence militaire française au Sahel, toujours plus remise en question. Le Tchad a annoncé hier mettre fin aux accords de sécurité et de défense avec Paris. Le président sénégalais a lui aussi annoncé la fermeture prochaine des bases militaires françaises au Sénégal. Suite aujourd'hui de la visite d'État du président nigérian en France, la première depuis 24 ans hier, Emmanuel Macron et Bola Tinubu ont enchaîné les rencontres, objectif renforcer la coopération économique entre les deux pays. Au sommaire également, l'Ukraine où 1 million de personnes ont passé la nuit dans le noir suite à ces frappes russes contre des infrastructures énergétiques hier matin. Vladimir Poutine hausse le ton, le président russe menace maintenant d'utiliser son nouveau missile Oreshnik. Et puis l'inquiétude des marchés financiers alors que le gouvernement français pourrait tomber la semaine prochaine. La preuve, la France emprunte au même taux que la Grèce, le pays le plus endetté de l'Union européenne. Et nous sommes le 29 novembre. C'est aujourd'hui la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, dont les morts se comptent par dizaines de milliers, les réfugiés déplacés et exilés par millions. Une journée qui se déroule aussi bien à Gaza que dans les pays d'accueil comme en Jordanie. Reportage de notre correspondant RFI à Amman, Mohamed Erami.
Comment parler de solidarité mondiale avec les Palestiniens alors qu'ils sont massacrés par Israël avec des armes américaines et européennes? C'est ce que se demandent les Jordaniens en ce jour de solidarité. Des milliers de personnes, dont Abid, ont manifesté à Amman, appelant à la fin des hostilités et à la protection des Palestiniens.
Ce que nous faisons est très simple, car c'est tout ce que nous pouvons faire. Mais le monde doit agir fermement pour mettre fin à l'agression israélienne sur Gaza et accorder aux Palestiniens leur droit à un État indépendant.
Le gouvernement jordanien a organisé un festival sous le slogan « Soutien à la Palestine » visant à mettre en valeur le lien profond entre Jordaniens et Palestiniens, un même peuple et frères, dans un pays où près de 60% de la population est d'origine palestinienne. Selon le ministre de la Communication, Mohamed Momani, l'événement visait à célébrer cette fraternité et à diffuser un message mondial de solidarité pour la cause palestinienne.
La Palestine et sa capitale, Jérusalem occupée, n'ont jamais été un simple slogan pour les Jordaniens. La libération de la Palestine a toujours été et restera un objectif sacré pour eux. Aujourd'hui, lors de la session de Jérusalem du Festival médiatique arabe, tous les participants sont d'accord. Jérusalem restera la capitale éternelle de la Palestine.
Pour les Jordaniens, la cause palestinienne est une cause commune, notamment en raison de considérations géopolitiques et du fait que plus de 2,5 millions de réfugiés palestiniens vivent en Jordanie. Mohamed Erami, Amman, RFI.
Et la polémique enfle après que le Quai d'Orsay a estimé mercredi dans un communiqué que Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, bénéficiait d'une immunité alors qu'il est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, la CPI. Car selon la France, le droit international donne une immunité aux États qui ne reconnaissent pas cette Cour, ce qui est le cas d'Israël. Alors comment expliquer une telle position? Selon la presse israélienne, cela aurait été convenu avec l'État hébreu en échange d'une reconnaissance du statut de la France comme médiatrice dans le cessez-le-feu au Liban. Les explications de Théo Renaudot.
C'est une coïncidence si l'immunité de Benjamin Netanyahou est déclarée par la France en même temps que le cessez-le-feu au Liban, répète le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Christophe Lemoyne.
Ce sont deux logiques distinctes. Enfin, il y a une logique diplomatique et une logique judiciaire. Les deux suivent leur cours à des rythmes et à des temporalités différentes.
Nous, on a interrogé beaucoup de juristes qui ne sont pas d'accord avec votre lecture.
C'est comme tout le droit. Après, il y a des interprétations du droit qui peuvent se faire.
Immunité, donc, pour le Premier ministre israélien. Il y a 3 mois, pourtant, la France avait regretté publiquement que Vladimir Poutine ne soit pas arrêté par la Mongolie. Lors d'une visite, le président russe étant lui aussi visé par un mandat d'arrêt de la CPI. Mais aujourd'hui, Christophe Lemoine tient un tout autre discours.
La Mongolie a fait valoir, lorsque Vladimir Poutine est venu en Mongolie, que le statut de la Cour pénale internationale à Rome prévoyait dans son article 98 qu'il y ait des immunités pour les chefs d'État, ce qui est Vladimir Poutine. Et donc, elle a respecté les immunités du chef d'État russe et donc n'a pas procédé à l'exécution du mandat d'arrêt.
Et elle a eu raison.
Je n'ai pas demandé aux Mongols. Hein.
La Cour pénale internationale, elle, avait demandé officiellement des explications à la Mongolie.
Théo Renaudon, et moins de 48 heures après l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, chacun accuse l'autre d'avoir violé la trêve. L'État hébreu assure, je cite, que des suspects sont arrivés dans plusieurs zones du sud Liban avant d'ouvrir le feu et mener un raid contre un entrepôt de roquettes du Hezbollah. Le groupe soutenu par l'Iran indique de son côté que l'armée israélienne a tiré sur des civils qui rentraient dans leur village le long de la frontière. Notez également qu'à Gaza, les conditions pour un accord sur la libération des otages se sont considérablement améliorés. C'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, hier à la télévision, alors que de nouvelles frappes ont fait au moins 21 morts hier dans l'enclave palestinienne. Deuxième jour aujourd'hui de la visite d'État du président nigérian du Nigeria en France, la première depuis 24 ans. Après une cérémonie aux Invalides hier, Bola Tinubu a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Tous les deux ont rencontré de grandes entreprises, objectif renouveler et élargir le partenariat entre la France et son premier partenaire commercial en Afrique subsaharienne, Lisa Fabian.
Passage en revue des troupes dans la cour des Invalides pour accueillir le président Bola Ahmed Tinubu à Paris. Les honneurs d'une visite d'État qui constitue une aubaine pour le président nigérian au moment où son pays fait face à une très grave crise économique.
Peu importe combien vous investissez dans d'autres pays africains, il est essentiel de considérer le Nigeria comme un partenaire sérieux pour atteindre vos objectifs. Quoi qu'il en soit, nous voulons assurer la communauté des investisseurs que le Nigeria est ouvert aux affaires.
Pour l'instant, pas d'annonce concrète, mais des promesses d'investissement dans de nombreux domaines de la part du président Emmanuel Macron.
La France continuera de s'investir à travers aussi son agence française de développement. Plus de 330 millions d'euros dès 2025 en supplément en faveur des projets justement de sécurité alimentaire, de mobilité urbaine, d'enseignement supérieur, d'agriculture, de formation professionnelle et de changement climatique. Aux investissements du groupe AFD viendront s'ajouter de nouveaux investissements via aussi des prêts du Trésor français.
Le chef de l'État français a aussi apporté son soutien aux réformes économiques menées par Bola Tinubu depuis son élection. Celles-ci sont pourtant très critiquées au Nigeria.
Bola Tinubu qui participera aujourd'hui à un forum avec le MEDEF, l'organisation patronale française, une fois de plus pour obtenir des investissements dans son pays. Quelques heures après la visite de Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie française, le Tchad a affirmé hier mettre fin aux accords de sécurité et de défense avec Paris. Le Tchad, dernier maillon de la présence militaire française au Sahel, après les retraits forcés de ses troupes au Mali et au Burkina Faso et au Niger. Une annonce qui intervient alors que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a indiqué hier soir dans un entretien à l'agence France Presse que la France allait devoir fermer ses bases militaires au Sénégal. Le chef d'État sénégalais qui affirme également qu'Emmanuel Macron a reconnu pour la première fois dans une lettre que les forces coloniales françaises avaient commis un massacre il y a 80 ans contre les tirailleurs africains à Tiaroy le 1er décembre 1944. On y reviendra plus en détail à 5h30 dans le journal Afrique de Xavier Besson. Au moins 1 million d'Ukrainiens viennent de passer la nuit dans le noir et le froid après une attaque d'envergure hier contre les infrastructures énergétiques du pays. Une réponse aux récents bombardements qui ont visé la Russie, a déclaré hier Vladimir Poutine. Le président russe menace désormais de frapper les centres de décision de Kiev avec son nouveau missile Oreshnik, utilisé pour la première fois la semaine dernière. Ce qui pose cette question ce matin: sur quel arsenal s'appuie l'armée russe pour bombarder l'Ukraine ? Élément de réponse avec Franck Alexandre.
L'attaque de jeudi, c'est la 11e campagne de bombardement majeur contre le système énergétique ukrainien cette année. Et pour atteindre ses infrastructures stratégiques avec précision dans la profondeur du territoire ukrainien, l'armée russe dispose de deux familles de missiles. Les missiles de croisière KH-101 et Calibre et les missiles hypersoniques dénommés Kinjal et Iskander. En revanche, pour bombarder la ligne de front, les forces aériennes russes privilégient les bombes planantes. abondantes et ils les utilisent de manière massive, 1800 par semaine, mais ce n'est pas tout. Moscou signale qu'il a désormais un nouvel atout dans son jeu, l'Oreshnik, missile balistique qui peut atteindre des cibles comprises entre 3000 et 5000 km de portée. Même utilisé sans charge nucléaire, il provoque des dégâts considérables sur Vladimir Poutine qui a ordonné sa production en série. Il n'y a pas d'urgence opérationnelle car la production prendra plusieurs années. Elle coûtera aussi très cher, mais lorsqu'il sera dans les forces, l'Oreshnik fera peser une menace bien réelle sur l'Ukraine, mais également sur l'Europe, qui aujourd'hui ne dispose d'aucune parade contre ce type de missile.
Franck Alexandre, retour en France où le gouvernement reste sous la menace d'une potentielle motion de censure la semaine prochaine à l'Assemblée nationale sur le budget 2025. Conséquence, Michel Barnier, le Premier ministre, a fait des concessions hier en faveur du Rassemblement national. Il renonce à augmenter la taxe sur l'électricité, se dit prêt à réduire l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Une situation politique compliquée qui inquiète les marchés financiers. Les taux d'emprunt à 10 ans de la France ont temporairement dépassé ceux de la Grèce, le pays le plus endetté de l'Union européenne. Pour autant, il faut raison garder, d'après Simon-Pierre Sanguérac, co-directeur de l'Observatoire de l'économie de la Fondation Jean Jaurès et professeur à Sciences Po Paris.
Symboliquement, c'est effectivement assez dur de voir que le taux d'intérêt de cette dette est égal, voire un peu supérieur à celui de la Grèce, pays qui a vécu des soubresauts économiques forts. De là à ce que demain, les investisseurs arrêtent d'acheter la dette française et que donc on ne puisse pas financer la politique française, aujourd'hui, c'est un scénario qui est très très peu probable. Il faut rappeler qu'en 2025, l'État va lever de l'ordre de 300 milliards d'euros, ce qui est relativement important, hein. C'est grosso modo deux fois le rendement de la TVA. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de risque avéré que ces 300 milliards d'euros, on n'arrivera pas à les lever sur les marchés financiers.
Des propos recueillis par Stéphane Geneste. On termine ce journal avec du foot. Ligue Europa, victoire hier soir du Maccabi Tel Aviv sur le Beşiktaş, 3-1. Défaite 2-0 de l'Ajax Amsterdam contre la Real Sociedad. Nice s'est incliné à domicile face aux Glasgow Rangers, 4-1. Lyon s'est imposé sur le même score contre le FK Karabagh. Des matchs parfois diffusés illégalement sur Internet, ce qui représente d'énormes pertes de chiffre d'affaires pour le secteur du sport. On parle de millions d'euros qui n'iront pas ni au club, au fédération ou encore au sport amateur. Explication d'Agnieszka Kumor.
Pour la saison en cours, près de 40% des personnes ayant regardé le championnat de France de la Ligue 1 l'ont fait illégalement. Le manque à gagner est estimé à 290 millions d'euros par an pour le secteur du sport. Ce à quoi s'ajoutent les recettes sociales et fiscales pour l'État qui représentent au total 420 millions d'euros par an selon le régulateur de l'audiovisuel, l'ARCOM. Certes, le piratage baisse globalement, notamment grâce au blocage de sites de diffusion en direct. Plus de 7000 noms de domaines illégaux ont été bloqués en 2022. Mais les chiffres sont moins encourageants s'agissant de visionnage de matchs sur Internet via des boîtiers connectés. Ces dispositifs permettent d'avoir accès à un bouquet de chaînes, moyennant un abonnement bien moins élevé que l'offre légale. Cette tendance progresse et les pirates ont toujours une longueur d'avance sur le régulateur.
Agnieszka Kumor, il est 4h13 en temps universel et à Londres, 7h13 à Bagdad.
RFI, toute l'actualité.
Alban Le Prince.
Et vous êtes sur RFI, merci d'être avec nous. Bon réveil au programme de ces 20 prochaines minutes. Nous irons au Royaume-Uni où les députés se penchent aujourd'hui sur un texte potentiellement historique, la légalisation ou non du suicide assisté. Près de 10 ans que le sujet tabou dans le pays n'avait pas été abordé. On vous en parlait dans ce journal, c'est aujourd'hui la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien en Irak. Malgré les appels lancés pour se rassembler, la population palestinienne est un peu oubliée. L'invité culture du jour, c'est la fille du célèbre navigateur Peter Tangvald, Virginia Tangvald, qui sort son premier roman, Les Enfants du Large, aux éditions Jean-Claude Lattès. Le Conseil Santé focus aujourd'hui sur un métier, celui de sage-femme. Et puis le choix de la programmation musicale de RFI aujourd'hui, nous irons au Népal, à Katmandou. C'est le titre du dernier single de Thomas Dutronc. Le Le reportage international du jour qui nous conduit donc au Royaume-Uni, puisqu'aujourd'hui, les députés britanniques débutent l'examen d'un texte qui pourrait devenir historique, la légalisation du suicide assisté. C'est une élue travailliste qu'il défend. Son objectif, permettre aux personnes malades et en phase terminale, ceux dont l'espérance de vie ne dépasse pas 6 mois, à demander une assistance à mourir. Le sujet est tabou dans le pays. Cela faisait près de 10 ans qu'il n'avait pas été débattu au Parlement. Emeline Vin, la correspondante de RFI à Londres, est allée à la rencontre de ceux qui réclament le droit de choisir leur mort.
Il se déplace rarement sans son trombone vert, même pour aller voir l'oncologue qui le suit pour son cancer colorectal. Nathaniel Dye travaille sur un album et sur une campagne très personnelle, le droit de choisir sa propre mort.
Je vais probablement mourir de ce cancer dans les 5 prochaines années. Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir peu de symptômes, mais j'ai eu un aperçu de ce qui peut m'arriver. Je vous parle d'une douleur insupportable. Si celle-ci devenait permanente, je crois que la mort ne serait pas la pire des issues pour moi.
Nathaniel Dye fait campagne avec Dignity in Dying, mourir dans la dignité. Parmi les autres militants de l'ONG, Sophie Blake, visage d'une nouvelle campagne de sensibilisation. Maman d'une adolescente de 17 ans, cette ancienne commentatrice sportive a un cancer du sein incurable.
Quand les antidouleurs ne fonctionnent plus, il faut qu'on puisse dire « cette personne est en train de mourir, ne prolongeons pas son agonie ». Le fait de pouvoir avoir le contrôle à la fin, c'est important pour moi, mais aussi pour elle.
Parmi les arguments contre le texte, il y a les convictions religieuses, philosophiques et la crainte que certains malades ne soient poussés au suicide par leurs proches. La quinquagénaire souligne pourtant la solidité du projet de loi.
Cela ne se fera pas en 5 minutes. Il faudra que 2 médecins indépendants parlent aux patients chacun de leur côté. Ensuite, c'est un juge qui devra valider la décision.
Selon les derniers sondages, 7 Britanniques sur 10 soutiennent l'assistance au suicide en principe. Côté corps médical, c'est plus flou. La British Medical Association, le principal syndicat du secteur, longtemps contre, se déclare aujourd'hui neutre.
Évidemment, ce projet nous intéresse parce qu'il concerne non seulement les médecins, mais surtout nos patients.
Andy Green dirige le comité éthique de la BMA.
Notre condition principale, c'est le droit à la clause de conscience. Et bien sûr, nous insistons sur le fait qu'il faut de nouveaux financements, qu'aucun fonds ne doit être retiré du budget existant de l'hôpital public, en particulier les services palliatifs, déjà sous-financés et sous pression.
Le syndicat ne se prononcera ni sur le fond, ni sur les critères d'éligibilité. Les partis ne donneront pas de consigne de vote. En cas de rejet, Nathaniel Dye, le professeur tromboniste, envisagera de partir en Suisse. Emeline Vin, Londres, RFI.
On vous en parlait dans le journal. Nous sommes le 29 novembre. C'est la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Et en Irak, comme souvent depuis le 7 octobre 2023, jour des attaques du Hamas en Israël, plusieurs appels à se rassembler ont été lancés sur les réseaux sociaux. Bonjour Marie-Charlotte Roupy.
Bonjour.
À Bagdad pour RFI. Parallèlement à ça, les Palestiniens d'Irak, eux, sont un peu oubliés.
Oui, effectivement. On ne peut pas nier déjà le soutien, même symbolique, du gouvernement et des Irakiens aux Palestiniens depuis le début de la guerre. On a eu des cargos d'aide humanitaire envoyés à Gaza, des blessés ont été soignés à Bagdad et les factions armées chiites ont encore affirmé ces derniers jours qu'elles poursuivraient les attaques contre Israël tant que continueront les attaques contre la bande de Gaza. Mais effectivement, pour la communauté palestinienne d'Irak qui vit ici depuis 1948 et qui compte environ 6000 personnes, c'est une toute autre histoire. Depuis la fin du régime de Saddam Hussein, leurs droits se sont réduits comme peau de chagrin. Jusqu'au mois dernier encore, une loi n'autorisant que les Irakiens à détenir une licence de taxi a porté un coup très dur à la communauté qui perd une importante source de revenus.
Alors, vous parlez d'une perte progressive de leurs droits. De quels droits parle-t-on ? Qu'est-ce qu'ils ont perdu et pourquoi ?
Eh bien, en 1948, quand le roi Faisal II accueille quelques familles de réfugiés de Haïfa, il leur accorde les mêmes droits qu'aux Irakiens. La plupart des familles choisissent de ne pas prendre la nationalité irakienne dans l'espoir d'obtenir les aides accordées aux réfugiés avant de rentrer un jour chez elles, mais elles peuvent accéder aux services publics, l'éducation, les soins, etc. En 2001, Saddam Hussein entérine ses droits dans une résolution, seul interdit l'obtention de la nationalité irakienne. Ils sont alors 35 000 dans le pays. Et l'invasion américaine en 2003 va tout changer. La majorité de la communauté va fuir le pays. Et en 2017, les autorités irakiennes annulent une série de résolutions datant de l'ancien régime et balayent la totalité des droits des Palestiniens qui perdent jusqu'aux cartes de rationnement. La communauté aujourd'hui survit donc forcément difficilement.
Est-ce qu'il y a un espoir pour la communauté palestinienne d'Irak de voir sa situation s'améliorer ?
Il y a un texte au Parlement depuis des années pour remplacer la résolution annulée, mais sans résultat. Et Younadem Kana, du mouvement démocratique assyrien, a soutenu ce texte et ne compte pas rester les bras croisés. Écoutez-le.
Ils ont été victimes de conflits politiques en Irak. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison politique ou humanitaire de les laisser ainsi sans droit. Je vais peut-être devoir m'adresser au Conseil des ministres pour obtenir une résolution exceptionnelle, pas une loi, mais au moins une résolution pour régler ces problèmes.
En l'absence de résolution, les jeunes générations des Palestiniens d'Irak sans espoir continueront de quitter le pays les uns après les autres dès qu'ils le pourront.
Merci beaucoup Marie-Charlotte Roupy en direct de Bagdad pour RFI. Et notre invitée culture du jour sort son premier livre. Elle n'est pourtant pas inconnue du grand public. Virginia Tangvald, réalisatrice, fille du célèbre navigateur Peter Tangvald. Elle publie Les Enfants du Large aux éditions Jean-Claude Lattès, un roman autobiographique dans lequel elle part à la recherche de son père et de ses frères et sœurs disparus en mer. Virginia Tangvald répond aux questions de Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour Virginia Tangvald.
Bonjour Catherine.
Vous êtes la fille de Peter Tangvald, aventurier légendaire. Vous êtes née sur son voilier, mais 2 ans après, votre mère a décidé de s'enfuir avec vous. Vous pensez qu'elle vous a sauvé la vie ?
Oh, elle m'a absolument sauvé la vie. Et vraiment parce qu'elle avait un pressentiment, un instinct, parce que c'était pas planifié. Elle était partie faire des courses et elle a vu des gens sur des terrasses de café en train de faire leur vie, puis elle s'est sentie comme si elle vivait à l'écart du monde, un peu comme dans une secte, et elle a décidé comme ça, sur un coup de tête, de s'enfuir.
Il faut dire qu'elle était la 7e femme de votre père, que certaines de ses précédentes compagnes avaient disparu, mystérieusement donc, étrangement. Et d'ailleurs, en 1991, un nouveau drame arrive, puisque votre père et votre sœur Carmen, âgée de 8 ans, meurent dans un naufrage. Un accident qui, compte tenu de son expérience de marin, n'aurait pas dû avoir lieu. Qu'en pensez-vous ?
C'est incompréhensible. Il aurait dû savoir que c'était la route la plus dangereuse, que c'était la route la moins marine à prendre, celle qui était exposée au vent, les plus sauvages, et il l'a pris quand même. Je sais toujours pas quoi en faire, il faut vivre avec ce mystère.
À ce naufrage, survit votre frère aîné, Thomas, qui malgré le traumatisme de sa propre mère assassinée auparavant, de sa petite sœur et de son père noyé, devient à son tour navigateur. Jusqu'à ce qu'il disparaisse, il y a 10 ans. Vous avez pensé à une malédiction ?
Oui, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi le malheur se répétait, pourquoi la tragédie frappait toujours sur nous, sur la descendance.
À quel moment est-ce que vous avez commencé à vous poser des questions sur votre famille, sur votre père, sur vos frères et sœurs ?
J'ai toujours eu soif de comprendre plus, parce que j'avais seulement connu mon père au travers de la mythologie de mon père. Puisque c'était un navigateur célèbre, il y avait des articles qui avaient été écrits sur lui, il avait publié des autobiographies. Alors, j'avais toujours eu soif de le connaître au travers de ses écrits, d'autant plus que je me sentais en errance et avec une identité incertaine, fragmentée. J'avais d'autant plus soif de connaître mon père. Mais il y avait toujours eu cette tension de... Je trouvais que sa quête était tellement belle et lumineuse, galvanisante, mais en même temps, je voyais bien comment elle avait conduit tout le monde vers la mort. Alors, j'avais toujours vécu avec cette tension. Mais quand je me suis vraiment mis à me poser des questions et à me dire qu'il y avait des problèmes et qu'il fallait que je trouve une solution ou que je passe au travers un cap, que je passe le cap, c'était quand mon frère est disparu en mer il y a 10 ans et que je me suis dit, ça y est, la prochaine c'est moi.
Merci beaucoup Virginia Tangvald Je rappelle le titre « Les enfants du large » qui a paru aux éditions Jean-Claude Lattès.
Merci à vous Catherine.
Entretien passionnant entre Catherine Fruchon-Toussaint et Virginia Tangvald à retrouver tout à l'heure à 13h10, temps universel sur RFI dans Littérature sans frontières à l'occasion de la sortie des Enfants du Large aux éditions Jean-Claude Lattès.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Et ce matin, on s'intéresse à cette profession qui accompagne la femme avant, pendant, après sa grossesse. Tout savoir sur le métier de sage-femme, c'est ce que nous propose Caroline Paré avec son invitée.
Sarah Benjilani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sage-femme à Enghien-les-Bains en région parisienne. Quels sont les soins, les compétences propres au métier de sage-femme ?
Eh bien, ça va concerner le monde de la périnatalité, donc la femme enceinte et l'enfant sur ses premiers mois de vie. Et également toute la santé génésique de la femme, c'est-à-dire tout ce qui concerne sa vie gynécologique, dans la mesure où la femme est en bonne santé. Dès lors où il y a besoin d'avoir un avis, nous orienterons à nos collègues.
Et c'est ça précisément qui fait la différence entre le travail d'une sage-femme et celui du gynécologue obstétricien, le risque ?
Eh bien, en fait, ce qui va faire une grande différence peut-être, c'est que le médecin va travailler sur la pathologie, alors que la sage-femme va faire en sorte que la femme reste dans un état de santé, et dans une vision très holistique, c'est-à-dire que ce soit au niveau physique, mais également au niveau psychique et au niveau environnemental.
Est-ce que ce métier de sage-femme, il change avec les années ?
Oui, il change. Et en France, il y a un élargissement des champs de compétences, avec notamment le recours au suivi gynécologique dont on parlait, l'accompagnement des femmes qui ont des interruptions de grossesse, et bien sûr tout le corps de métier autour de la périnatalité qui est de plus en plus occupé par les sages-femmes. C'est leur champ de compétences principal.
Merci beaucoup Sarah Benjilani. Vous êtes également secrétaire générale du Collège national des sages-femmes de France. Aujourd'hui dans Priorité Santé, un sujet que vous connaissez bien dans notre émission Questions de femmes. Questions de parents avec les premiers jours du nourrisson. Attachement, alimentation, éveil, apprendre à se connaître et à prendre soin. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et le rendez-vous est pris, Caroline, à tout à l'heure. Le choix de la programmation musicale de RFI aujourd'hui, c'est un artiste qui s'illustre depuis de nombreuses années maintenant dans la musique manouche avec sa guitare. On parle de Thomas Dutronc dont le dernier album Il n'est jamais trop tard vient de sortir. Et ce matin, on découvre un extrait de ce disque sur RFI. C'est Katmandou de Thomas Dutronc. Très bon réveil à vous.
Je vais partir à Katmandou. Je prendrai un vieux coucou et j'irai jusqu'au bout. Bout de ficelle qui viendra avec moi, partagera mes choix, partagera mon toit. Toi la matelas, venture en attendant. C'est beaucoup plus tentant que ton emploi du temps. Tant pis pour toi, je n'écoute plus personne. Maintenant je vous abandonne, je quitte Babylone. Lonesome go bye 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 bye. Je taille 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 là-haut. Une certaine légèreté, un petit genre décolleté, elle s'appelle liberté. T'es la plus belle, je vais me faire la belle. Déployer mes ailes et manquer à l'appel. Belle Agathe, n'osera pas me dire en face que tous tes rêves s'effacent. J'aimerais être à ma place. As de carreau, milieu de la pampa, pas de fils à papa, je serai le pacha. Chapeau de j'en regarde à vous, je viens plus au rendez-vous, je travaille plus pour des clous, clouez-le bec, canou bien camping-car, je trimballerai mon plumard, et d'ici à Zanzibar, barata passe, que j'aime faire ce que je veux, je fais le vœu de le faire, je veux pas d'enfer sur terre, terrible.
tous sur RFI, dernier single de Thomas Dutronc en tournée dans toute la France. Vous pourrez aller l'applaudir le 15 février à Courbevoie, près de Paris, le 4 mars à Lille, le 10 avril à Nantes ou encore le 12 à Mérignac, près de Bordeaux. Restez avec nous dans 30 secondes, le retour de l'actualité africaine.
La Mastroc, Jarring FX et RFI Talent présentent Zara Electric. Découvrez Babor, le nouveau single du trio franco-marocain de Marseille. Disponible sur toutes les plateformes.